Vous écoutez, on lit pour vous.
L'achalandage des banques alimentaires pourrait bondir de 26 % en 3 ans. Un texte de Stéphane Roland, paru le 19 janvier 2026 dans Le Devoir. L'achalandage des banques alimentaires ne cesse de fracasser de nouveaux records annuels depuis la pandémie. La situation risque de s'aggraver au cours des prochaines années, selon une analyse de la firme Aviseo. Le nombre de demandes d'aide pourrait grimper de 25,8 % en 3 ans, selon les estimations de la firme qui a fait cette projection à la demande des banques alimentaires du Québec, BAQ. En 2025, le réseau a répondu à 3,1 millions de demandes d'aide alimentaire. Ce chiffre devrait bondir à 3,9 millions en 2028. Les prévisions sont préoccupantes, estime le directeur général des BAQ, Martin Munger, en entrevue. Le réseau doit déjà composer avec une pression énorme, tandis que le nombre de demandes a augmenté de 61 % depuis 2019. Il y a des organismes dans le réseau qui sont sur le bord de craquer, prévient M. Munger. Le pouvoir d'achat des ménages moins nantis a diminué, notamment en raison de l'inflation alimentaire et de la hausse du coût des logements. Je pense que la crise du logement ne sera pas résorbée dans un an ou deux, prédit le dirigeant communautaire. Elle va être encore très présente. La hausse des prix des voitures d'occasion pèse aussi sur le portefeuille des ménages qui n'ont pas accès aux transports en commun. En région, même si on est une personne à faible revenu, ça prend une auto pareille, rappelle M. Munger. Auparavant, les banques alimentaires procuraient davantage un soutien temporaire à des personnes qui vivaient une situation difficile, comme une perte d'emploi. Les banques alimentaires accueillent de plus en plus de travailleurs dont le salaire n'est pas suffisant pour combler les besoins de base, constate M. Munger. Il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas suffisamment d'argent pour se nourrir eux-mêmes, déplore-t-il. Il souligne qu'un Québécois sur 5 se trouve dans une situation d'insécurité alimentaire. La question que je me pose, c'est à quel moment la société québécoise va-t-elle juger que cette proportion est trop grande? Les prévisions d'Aviseo démontrent que les banques alimentaires auront besoin de soutien pour répondre à la demande, plaide-t-il. Dans le cadre des consultations pré-budgétaires, BAQ demande au gouvernement d'obtenir des fonds pour acheter des denrées. L'organisme souhaiterait le renouvellement des subventions dans les infrastructures des banques alimentaires en 2027 et que le soutien soit élargi aux organismes locaux. Les organismes locaux ont souvent des installations qui ne sont pas adéquates pour répondre à un tel niveau de demande, explique-t-il. Nous, on peut envoyer des denrées, mais ils ne peuvent pas nécessairement les stocker. C'était « L'achalandage des banques alimentaires pourrait bondir de 26 % en 3 ans », un texte de Stéphane Roland paru le 19 janvier 2026 dans Le Devoir.
Ce qu'ils vendent vaut plus cher que le prix affiché, un texte de Luc Desjardins, PDG de l'Itinéraire, paru le 21 février 2026 dans la presse. Chaque matin, avant même que Montréal ait terminé son premier café, ils sont déjà là, au coin de Sainte-Catherine, à la sortie du métro Berry-UQAM, devant l'épicerie du quartier, debout, magazine en main, regard franc. Lors de la Semaine internationale des camelots fin février 2026, dans plus de 35 pays, des milliers de vendeurs de journaux de rue rappellent une vérité simple : on ne survit pas à la rue avec de la pitié. On survit avec du travail, de la parole et de la dignité. À Montréal, ce travail porte un nom : L'Itinéraire. Soyons clairs, un journal de rue n'est pas un objet caritatif. Ce n'est pas une pièce de monnaie transformée en papier pour soulager une conscience pressée. C'est un modèle d'économie sociale, c'est un revenu immédiat, c'est une activité structurée, c'est une transaction égale, un magazine contre quelques dollars, un regard contre un regard. Quand un camelot vend l'itinéraire, il ne demande pas la charité. Il vend du contenu. Il vend une analyse. Il vend un témoignage. Il vend une rencontre. Et cette rencontre change plus qu'on ne le pense. Dans un monde saturé d'opinions, d'alertes et de débats amplifiés par les algorithmes, l'information circule vite. Mais la vérité de la rue, elle, circule encore difficilement. L'itinérance est commentée, analysée, instrumentalisée, trop rarement racontée de l'intérieur. À l'itinéraire, plus de la moitié du contenu est rédigé par des camelots ou par des personnes ayant vécu la rue. Ce n'est pas un détail. C'est une ligne éditoriale. Nous croyons que la parole des personnes en situation d'itinérance n'a pas besoin d'être filtrée pour être pertinente. Elle a besoin d'être accompagnée, structurée, valorisée. Informer, c'est redonner du pouvoir. Mais survivre en 2026, à Montréal, est devenu un combat quotidien. La crise du logement frappe de plein fouet. Le prix des loyers explose. Les profils se complexifient. Santé mentale fragilisée, dépendance, traumatisme, réalités autochtones, urbaines longtemps ignorées. Les refuges débordent. Les organismes communautaires absorbent les chocs d'un système public sous pression. Dans ce contexte, le camelot n'est pas un symbole. Il est un travailleur. Vendre un magazine, c'est gérer un inventaire. Respecter un territoire, développer une clientèle régulière, créer un lien de confiance, se lever le matin, même quand tout semble fragile, rester debout dans le froid, quand l'économie numérique contourne les plus vulnérables. Ce n'est ni romantique ni folklorique. C'est exigeant. C'est structurant. Depuis plus de 32 ans, le modèle des journaux de rue à travers le monde a permis à des centaines de milliers de personnes de générer un revenu, de stabiliser leur situation et surtout, de reprendre leur place dans l'espace public. La rue enlève beaucoup. Un logement, un emploi, parfois une famille, souvent l'estime de soi. Le travail, même modeste, redonne un statut. La Semaine internationale des camelots n'est donc pas une célébration décorative. C'est un rappel. Derrière chaque exemplaire vendu se trouve une personne qui refuse de disparaître dans l'angle mort de notre regard collectif. Ce magazine est un miroir. Il nous renvoie une question inconfortable. Que faisons-nous de ce que nous savons? Nous savons que l'itinérance n'est pas un choix. Nous savons qu'elle résulte d'une série de ruptures économiques, familiales, institutionnelles. Nous savons que prévenir coûte moins cher que réparer. Nous savons que la dignité est un facteur déterminant de réinsertion. Alors oui, informer pour survivre est un acte politique, non pas partisan, mais politique au sens noble, celui du vivre ensemble, de la responsabilité collective, du courage d'agir. Acheter le magazine, c'est soutenir un revenu. Lire le magazine, c'est comprendre autrement. S'engager, après l'avoir lu, c'est transformer cette compréhension en action. L'itinéraire ne cherche pas à être un symbole de l'itinérance. Nous voulons être la preuve que l'économie sociale fonctionne. La preuve que la rencontre transforme. La preuve que la parole libère. Dans un climat où les tensions sociales augmentent et où la tentation est grande de chercher des coupables plutôt que des solutions, nos camelots rappellent quelque chose d'essentiel. La dignité ne se décrète pas, elle se pratique. un exemplaire à la fois, une conversation à la fois, un regard à la fois. La vraie question, au fond, n'est pas ce qu'ils vendent. La vraie question est simple. Sommes-nous prêts à reconnaître la valeur de ce qu'ils nous offrent? C'était « Ce qu'ils vendent vaut plus cher que le prix affiché », un texte de Luc Desjardins, PDG de l'Itinéraire, paru le 21 février 2026 dans la presse.
Des pistes vertes pour garder les pistes blanches. Un texte d'Alexandre Pratt, paru le 25 janvier 2026 dans la presse. Bien des Olympiens passent la moitié de leur vie en l'air, entre New York et Singapour. Ou plutôt, entre Calgary et Almaty, avec des détours en Italie, en Laponie ou au Chili. Les points aéroplans s'accumulent, l'empreinte environnementale aussi. Ça préoccupe la skieuse québécoise Marion Thénault, une des meilleures au monde en saut acrobatique. Je passe beaucoup de temps dans les montagnes. Je vois les paysages qui changent rapidement. La neige se fait de plus en plus rare quand il y en a. Et je dépends de la neige. On voit des compétitions annulées ou présentées dans de moins bonnes conditions. L'image la plus frappante, c'est quand la montagne est toute verte et que tu as de la neige artificielle uniquement sur le site de saut. Les exemples se multiplient. Pas besoin d'aller jusqu'en Europe ou en Asie pour les trouver. Chez nous, en 2023, la pluie et le temps chaud ont forcé l'annulation d'une Coupe du monde de snowboard au Mont-Sainte-Anne. Un an plus tard, une Coupe du monde de ski alpin prévue à Tremblant n'a pu être présentée, faute de neige. Puis, il y a quelques semaines, à Val-Saint-Côme, le volet féminin d'une compétition mondiale de ski de bosse a pris fin avant la finale en raison de la pluie. Marion Thénault, qui se décrit comme une fille d'action, souhaite faire une différence. « J'aime m'impliquer dans les causes qui me tiennent à cœur », affirme l'étudiante de 25 ans. Avec l'aide des experts de WSP, elle s'est fixée comme objectif de devenir la première athlète canadienne carboneutre. C'est-à-dire? On calcule mes émissions de gaz à effet de serre, explique-t-elle. On essaie de les réduire le plus possible en optimisant mes déplacements, en limitant mes voyages en voiture et en avion. Est-ce possible, par exemple, de prendre moins de correspondance? J'ai aussi diminué ma consommation de viande. Ce sont toutes des choses qui se calculent. Après, on compense ce qui ne peut pas être éliminé, poursuit-elle. Marion Thénault ne s'est pas arrêtée là. Elle a aussi demandé à des entraîneurs de l'Australie, de la Chine, des États-Unis, du Japon et du Canada de partager les itinéraires de vol de leurs athlètes. Des entraîneurs européens ont également collaboré à son projet. Sans surprise, les émissions étaient très majoritairement attribuables aux déplacements entre deux sites de compétition. Comment les réduire? Est-ce même possible? Absolument. À Lac-Beauport, où Marion Thénault a gagné une médaille d'argent au début de janvier 2026, la Fédération internationale présente deux compétitions de suite, ce qui évite un déplacement. La proximité des épreuves de Livigno en Italie et de Saint-Moritz en Suisse permettent aux athlètes de voyager en voiture ou en autobus plutôt qu'en avion. À l'inverse, le voyage entre Deer Valley aux États-Unis et Beidahu en Chine est particulièrement énergivore. À partir des résultats de son enquête, Marion Thénault vient de proposer à la Fédération internationale un nouveau calendrier qui permettrait de réduire les déplacements de chaque athlète de près de 4000 km et les émissions de gaz à effet de serre de 20%. Les skieurs commenceraient leur saison à Deer Valley, puis se dirigeraient vers Lake Placid, Lac Beauport, l'Italie, la Suisse, le Kazakhstan et la Chine. Ce que j'ai remarqué, dit Manon Thériault, c'est que beaucoup d'athlètes disent « Ce n'est pas de notre faute, c'est celle de la Fédération internationale. » Et la Fédération, elle, affirme que ce n'est pas de sa faute, qu'elle ne peut rien faire si les athlètes ne sont pas d'accord. Il faut jouer dans la même équipe, plutôt qu'un contre l'autre. C'est super important. Elle-même travaille étroitement avec la Fédération internationale pour améliorer le bilan environnement du circuit. En parallèle, elle a reçu une bourse du Comité olympique canadien pour rendre la Coupe du monde de Lac Beauport plus éco-responsable. On dirait que tous ces termes-là, je ne les aime pas tant. Ils ne veulent rien dire parce qu'on les utilise trop, laisse-t-elle tomber. Il reste que depuis, plusieurs gestes concrets ont été faits. On offre un service de navette pour que les gens prennent moins leur auto. On a retiré tous les plastiques à usage unique pour les remplacer par des trucs que tu peux recycler. On a conçu un menu végétarien. Ce sont de beaux changements. Le but, c'est de s'améliorer d'année en année. Ce seront les deuxièmes Jeux olympiques de Marion Thénault. À Pékin, en 2022, elle avait remporté la médaille de bronze du concours par équipe avec Mia Fontaine et Lewis Irving. Depuis, elle a traversé son lot d'épreuves, notamment un gros accident de ski en décembre 2023, après lequel elle a perdu conscience. Avec le recul, l'accident, c'était quasiment la partie facile, confie-t-elle. Le plus difficile, c'était vraiment de revenir à la compétition. Mentalement, j'avais super peur. Je me demandais pourquoi je prenais autant de risques. Moi, j'aime l'adrénaline. J'aime les défis. Sauf que là, je n'aimais plus grand-chose. Elle ne retrouvait plus les sensations fortes que lui procurait autrefois son sport. Quand tu te sens bien, que tu veux conserver ce que tu as et ne plus prendre de risques alors que ton sport, c'est de te lancer dans les airs, c'est confrontant. Quand j'arrivais sur les sites de saut, je ne me sentais physiquement pas bien. J'avais mal. J'avais envie de pleurer. Combien de temps l'épreuve a-t-elle duré? Avant que je me sente bien à 100%, ça a pris plus d'un an. Le déclic s'est produit lors d'un camp d'entraînement à Park City, en Utah. Le 5 janvier au soir, précise-t-elle. J'avais eu ma crise existentielle, j'avais vécu les remises en question. Là, je voulais me donner une chance. Je me suis dit, vas-y, pour voir si tu peux le faire. J'avais super peur, mais ça fonctionnait. Ça m'a donné tellement confiance. Ce soir-là, j'ai essayé 5 triples sauts. J'en ai atterri 3. Alors qu'avant, dans toute ma vie, je n'en avais réussi qu'un seul. Tout s'est aligné. J'étais invincible. C'était le meilleur moment. Celui où j'ai retrouvé mon addiction pour mon sport. C'était des pistes vertes pour garder les pistes blanches, un texte d'Alexandre Pratt, paru le 25 janvier 2026 dans La Presse.
Faut-il interdire les réseaux sociaux aux ados? La question divise même les chercheurs. Un texte de Julien Durie de l'agence France Presse, paru le 19 janvier 2026 dans Le Devoir. Faut-il interdire les réseaux sociaux aux enfants et aux adolescents? Appliquée en Australie, envisagée en France et au Royaume-Uni, la mesure divise les chercheurs. Certains la jugent nécessaire face à une menace majeure pour la santé mentale, d'autres défendent une approche plus nuancée. Restreindre l'accès des jeunes adolescents aux réseaux sociaux, c'est un pari qui vaut le coup, estime auprès de l'AFP le chercheur australien Michael Nottel. Depuis décembre 2025, les Australiens de moins de 16 ans n'ont plus accès aux principaux réseaux Facebook, TikTok, Instagram, etc. et à d'autres sites Internet communautaires comme YouTube et Reddit. La France compte faire pareil pour les moins de 15 ans avec plusieurs textes dans les semaines à venir, dont l'un porté par le président Macron. Et le premier ministre britannique, Keir Starmer, a affirmé en janvier 2026 que son gouvernement n'écartait aucune option, y compris une interdiction aux moins de 16 ans. En cause, les risques multiples associés au réseau. Harcèlement, algorithmes favorisant la comparaison permanente, exposition à des contenus violents ou sexuels, etc. Depuis plusieurs années, la recherche s'est emparée du sujet. Un livre du psychologue américain Jonathan Haidt, paru en 2024 et vendu à des millions d'exemplaires, a notamment exercé une forte influence politique. Il y défend l'idée que les téléphones intelligents, et en particulier les réseaux sociaux, sont la cause première de la dégradation de la santé mentale des jeunes depuis les années 2000. C'est la génération anxieuse, titre de son ouvrage. Signe de cette influence, M. Haidt, qui n'a pas pu s'entretenir avec l'AFP, faute de disponibilité, a été cité par les responsables australiens, puis reçu au printemps 2025 par Emmanuel Macron. Il a également été sollicité par des représentants du gouvernement britannique, a écrit la semaine dernière le journal The Guardian. Son livre reste controversé. Dès sa sortie, la revue Nature publiait une critique de la psychologue américaine Candice Hodges, dénonçant une thèse simpliste qui occulterait notamment les facteurs économiques du mal-être des jeunes. Deux ans plus tard, un relatif consensus se dessine néanmoins sur les effets toxiques des réseaux sociaux, en particulier chez les filles, même si un débat perdure sur l'ampleur du phénomène. En France, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANSES, a ainsi conclu en janvier, sur la base de 1000 études, que les réseaux sociaux, sans être les seuls responsables, avaient de nombreux effets délétères sur les adolescents. Elle préconise d'agir sur les algorithmes pour que les mineurs n'accèdent qu'à des réseaux sociaux conçus et paramétrés pour protéger leur santé. Cercle vicieux. Malgré des affirmations trop catégoriques, M. Haidt a attiré l'attention sur un véritable problème, estime Michael Nottel, qui reproche à ses adversaires d'exiger un niveau irréaliste de preuves. M. Nottel a lui-même supervisé une vaste étude parue en 2025 dans la revue Psychological Bulletin et compilant une centaine de travaux mondiaux pour analyser les liens entre écrans et troubles psychologiques et émotionnels chez les mineurs. Ces conclusions suggèrent un cercle vicieux. Une fréquentation excessive des écrans, en particulier des réseaux sociaux et des jeux vidéo, a des effets négatifs, et le mal-être peut, en retour, favoriser un recours accru aux écrans. D'autres chercheurs se montrent toutefois sceptiques face à une interdiction généralisée. Des restrictions excessives peuvent être aussi problématiques qu'un usage excessif, et cela dépend de l'âge et du sexe, souligne auprès de l'AFP le chercheur australien Ben Singh. Dans une récente étude du JAMA Pediatrics, menée auprès d'environ 100 000 jeunes Australiens, M. Singh observe qu'un temps élevé passé sur les réseaux est associé à un moins bon état mental, tout comme en cas d'abstinence totale. L'hypothèse des chercheurs est que les réseaux peuvent, dans une certaine mesure, jouer un rôle positif de socialisation et donc limiter l'isolement, notamment chez les garçons. Le scepticisme à l'égard d'une interdiction généralisée s'exprime aussi chez certaines personnalités, comme le psychiatre français Serge Tisseron. Les réseaux sociaux sont effroyablement toxiques, estime-t-il, appelant à une régulation ambitieuse. Mais une interdiction générale, redoute-t-il, risquerait d'être facilement contournée par les adolescents, tout en déresponsabilisant les parents et en laissant entière la question de l'éducation au numérique. Le débat s'est beaucoup polarisé ces dernières années entre une interdiction pure et simple ou rien du tout, regrette-t-il, montrant du doigt un paradoxe. C'est exactement la logique des réseaux sociaux. Soit tout pour, soit tout contre. C'était « Faut-il interdire les réseaux sociaux aux ados? » La question divise même les chercheurs. Un texte de Julien Durie de l'agence France Presse, paru le 19 janvier 2026 dans Le Devoir.